Tommy accueillit le docteur Murray, non sans une certaine curiosité. Celui-ci venait sans doute le voir à propos d'une formalité quelconque à accomplir en rapport avec le décès de Tante Ada, mais pourquoi diable avait-il refusé de lui en parler au téléphone ? « Excusez-moi, je suis un peu en retard », lui dit le docteur Murray en lui serrant la main, « mais le trafic est épouvantable et je ne savais pas exactement où j'allais. Je ne connais pas très bien ce coin de Londres. » « Désolé de vous avoir fait faire tout ce chemin », répondit Tommy. « J'aurais pu vous rencontrer dans un endroit qui vous aurait mieux convenu. » « Vous disposez d'un peu de temps maintenant ?»« À présent, oui. J'étais absent toute la semaine dernière. »« Oui, c'est ce qu'on m'avait dit quand je vous ai appelé. » Tommy lui offrit un fauteuil, lui proposa à boire, disposa des cigarettes et des allumettes à côté de lui. Une fois les deux hommes confortablement installés, le docteur Murray entama la conversation. « J'ai dû éveiller votre curiosité, mais, à la vérité, nous avons des ennuis à la crête ensoleillée. » Il s'agit d'un problème incompréhensible sans rapport avec vous en un sens. Rien ne m'autorise à vous embêter avec ça, sinon l'espoir que vous aurez peut-être connaissance d'un détail quelconque susceptible de m'aider. Bien sûr, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir. Cela concerne ma tante, mademoiselle Fanshawe ? Pas directement, non, mais elle fait quand même partie de l'histoire. Je peux aborder le sujet avec vous en toute confiance, n'est-ce pas, monsieur Beresford ? Oui, bien entendu. En fait, nous parlions de vous l'autre jour avec un ami commun. Il m'a raconté un certain nombre d'anecdotes. Si j'ai bien compris, durant la dernière guerre, vous avez été affecté à des missions assez délicates. « Oh, rien d'aussi sérieux que cela !» répliqua Tommy avec son détachement habituel. « Naturellement, je comprends très bien que vous préfériez passer cela sous silence. Je ne crois pas qu'aujourd'hui cela porte le moins du monde à conséquence. Il y a bien longtemps que la guerre est finie. Ma femme et moi étions jeunes à l'époque. » « N'importe, ce que je vais vous dire n'a rien à voir avec ça, mais cela me permet de penser que je peux être franc avec vous, que je peux vous faire confiance, que vous ne répéterez pas mes propos, quand bien même tout cela finirait par se savoir. »« Des ennuis à la crête ensoleillée, disiez-vous. » »« Oui, il n'y a pas longtemps, une de nos patientes, Madame Moody, est morte. Je ne sais pas si vous l'avez connue ou si votre tante lui a jamais parlé. »« Madame Moody ?» répéta Tommy en réfléchissant. « Non, je ne crois pas. » En tout cas, pas que je m'en souvienne. Ce n'était pas l'une de nos plus vieilles pensionnaires. Elle n'avait pas encore atteint 70 ans et ne souffrait d'aucune maladie sérieuse. Elle n'avait tout simplement pas de parents proches et personne pour l'aider au quotidien. Elle appartenait à la catégorie de celles que j'appelle des glousseuses. Des femmes qui, en vieillissant, ressemblent de plus en plus à des poules. Elles gloussent, elles battent des ailes, elles oublient tout. Elles se plongent elles-mêmes dans les pires difficultés, à la suite de quoi le souci les ronge. Rien les agite, mais elles sont à peu près normales. Elles ne sont pas, à proprement parler, mentalement dérangées. « Elles gloussent, un point c'est tout », proposa Tommy. « Exactement, Madame Moody gloussait. Les infirmières l'aimaient bien et pourtant elle les rendait quasi folles. Elle avait l'habitude d'oublier qu'elle avait déjà déjeuné et faisait un scandale parce qu'on lui avait soi-disant pas servi son repas. « Ah !» s'écria Tommy. « Madame Cacao !»« Pardon ?» C'est le nom que nous lui avions donné, ma femme et moi. Un jour que nous passions dans le couloir, elle était en train de hurler parce qu'elle prétendait ne pas avoir eu son cacao. Une petite bonne femme, un peu étourdie mais assez avenante. Cela nous avait fait rire tous les deux et nous avions pris l'habitude de l'appeler Madame Cacao. Alors comme ça, elle est morte. Je n'ai pas été extraordinairement surpris par sa mort. Reprit le docteur Murray. Prévoir avec exactitude quand interviendra la mort d'une vieille femme, c'est impossible. Certaines, sérieusement malades, dont on pense, après les avoir examinées, qu'elles ne passeront pas l'année, repartent pour 10 ans encore. Leur volonté de s'accrocher à la vie leur permet de surmonter toute leur misère physique. Et puis, il y en a d'autres qui paraissent en assez bonne santé pour faire de vieux os. Elles attrapent une bronchite, n'arrivent pas ensuite à récupérer et meurent avec une facilité déconcertante. Donc, comme je le disais, avec mon expérience de médecin de maison de retraite, je ne suis pas étonné quand se produit une mort plutôt inattendue. Dans le cas de Madame Moody, cependant, c'était un peu différent. Elle est morte dans son sommeil sans aucun signe de maladie et rien n'expliquait son décès. Je vous citerai une réplique qui m'a toujours intrigué dans le Macbeth de Shakespeare. Je n'ai jamais cessé de me demander à quoi songeait Macbeth quand, parlant de sa femme, il dit « Elle aurait dû mourir plus tard ». Oui, je me rappelle m'être demandé aussi ce que Shakespeare avait en tête, confirma Tommy. Je ne me souviens plus dans quelle mise en scène ni qui jouait Macbeth, mais dans cette interprétation que j'ai vue, Macbeth s'efforçait de faire comprendre au médecin qu'il y aurait intérêt à écarter Lady Macbeth de son chemin. Le médecin avait apparemment saisi l'allusion, et c'était alors que, se sentant en sécurité maintenant que sa femme était morte, maintenant que ses actions inconsidérées et son esprit défaillant ne représentaient plus une menace pour lui, Macbeth exprimait son chagrin et l'affection sincère qu'il lui portait. Elle aurait dû mourir plus tard. « Exactement, » dit le docteur Murray. « Or, c'est ce que j'ai ressenti lors du décès de Madame Moody. Elle aurait dû mourir plus tard. Pas il y a 3 semaines sans cause apparente. » Tommy ne répondit pas. Il regardait simplement le médecin d'un air interrogateur. « Nous autres médecins, nous avons certains problèmes. Si la mort d'un patient nous intrigue, nous n'avons qu'un seul moyen de connaître la vérité, l'examen post-mortem. Le hic, c'est que les autopsies ne sont guère appréciées par les parents du défunt. Alors, si un médecin en réclame une et qu'il en ressort, comme cela peut fort bien arriver, qu'il s'agit d'une cause naturelle ou d'une maladie dont les symptômes ne sont pas forcément apparents, eh bien, la carrière du médecin peut se trouver sérieusement affectée par cette regrettable erreur de diagnostic. J'imagine que cela a dû être difficile. Les parents en question sont de lointains cousins. J'ai pris sur moi d'obtenir leur consentement sous prétexte qu'il fallait éclaircir la cause du décès dans l'intérêt de la médecine. Quand un patient meurt pendant son sommeil, il est bon d'en faire profiter la science médicale. Je leur ai emballé ça du mieux que j'ai pu, le plus simplement possible. Par bonheur, ils n'y ont pas vu l'ombre d'un inconvénient. Cela m'a beaucoup soulagé. Si l'autopsie ne révélait rien d'anormal, je pourrais délivrer un certificat de décès sans scrupule. Tout le monde peut mourir pour une raison quelconque, de ce que le commun des mortels appelle une crise cardiaque. En fait, pour son âge, le cœur de Madame Moody était en excellent état. Elle souffrait d'arthrose, de rhumatisme et de troubles occasionnels de la vésicule biliaire, mais rien de tout cela ne pouvait expliquer une mort de ce genre. Le docteur Murray s'interrompit. Tommy ouvrit la bouche, puis s'empressa de la refermer. Le médecin hocha la tête. « Oui, monsieur Beresford, vous voyez où je veux en venir. La mort avait été causée par une surdose de morphine. »« Seigneur Dieu !» laissa échapper Tommy, les yeux écarquillés. « Oui, cela paraît incroyable, mais les analyses sont formelles. La question qui se pose est donc la suivante. Comment cette morphine lui a-t-elle été administrée ? Elle n'en usait pas. Elle n'avait aucune maladie douloureuse le justifiant. Il n'y a que 3 possibilités. Elle peut en avoir pris accidentellement, peu vraisemblable. Elle peut avoir pris accidentellement, par exemple, le médicament d'une autre patiente, peu vraisemblable également. Nous ne confions pas aux patientes des réserves de morphine et nous n'acceptons pas les drogués qui pourraient en avoir en leur possession. Il pourrait s'agir d'un suicide, mais j'ai du mal à y croire. Bien qu'elle fût du genre à se tracasser à tout propos, Madame Moody était d'un naturel heureux et n'a jamais songé, j'en suis sûr, à en finir avec la vie. La 3e possibilité, c'est que cette surdose fatale lui ait été volontairement administrée. Mais par qui et pourquoi ? Bien entendu, Mademoiselle Packard, en sa qualité d'infirmière en chef diplômée, est autorisée à détenir des réserves de morphine et d'autres stupéfiants qu'elle garde sous clé dans un placard. Certains cas de sciatique ou d'arthrite rhumatismale sont capables de causer des douleurs si intolérables qu'on peut être amené à en prescrire. Nous avons espéré découvrir qu'on avait administré par erreur, en une circonstance particulière, une quantité dangereuse de morphine à Madame Moody, ou qu'elle en avait pris elle-même avec l'idée que cela pourrait guérir une indigestion ou une insomnie. Mais nous n'avons rien trouvé de pareil. Obéissant à une proposition de Mademoiselle Packard que j'avais approuvée, nous avons ensuite soigneusement examiné les archives relatant les décès survenus à la crête ensoleillée dans les 2 dernières années. Je suis heureux de pouvoir dire qu'il n'y en a pas eu beaucoup. 7 en tout, je crois, ce qui est peu pour une population de cette tranche d'âge. 2 cas de bronchite, des morts parfaitement claires. 2 cas de grippe. Elle tue souvent pendant les mois d'hiver, étant donné le peu de résistance que lui offrent les vieilles femmes. Et 3 autres. Il s'interrompit et reprit. Les 3 autres morts, monsieur Beresford, ne me satisfont pas. 2 d'entre elles, surtout. Elles étaient parfaitement possibles. Elles n'étaient pas étonnantes, mais j'irais jusqu'à dire qu'elles étaient peu vraisemblables. Plus j'y réfléchis, plus elles me paraissent suspectes. Nous devons envisager la possibilité, aussi extraordinaire que cela puisse paraître, qu'il y ait à la crête ensoleillée, pour des raisons de déséquilibre mental, probablement une meurtrière. Une meurtrière absolument insoupçonnable. Un silence suivit, puis Tommy soupira. « Je ne doute pas un instant de ce que vous me dites, mais franchement, cela paraît incroyable. Ces choses-là, non, ça n'arrive jamais. » « Oh, si, répliqua sombrement le docteur Murray, ça arrive bel et bien. Ce ne sont pas les cas pathologiques qui manquent. Prenons par exemple le cas de cette cuisinière qui avait travaillé dans différentes maisons. Une femme aimable, agréable, dévouée à ses patrons, bonne cuisinière, enchantée de sa place. Et pourtant, tôt ou tard, des morts survenaient. C'était généralement une assiette de sandwich, parfois de la nourriture préparée pour un pique-nique, à laquelle, sans raison apparente, on avait ajouté un peu d'arsenic. Deux ou trois sandwichs empoisonnés parmi les autres. De toute évidence, seul le hasard décidait de qui les mangerait. Aucune animosité personnelle. Parfois même, il ne se passait rien. La même femme travaillait trois ou quatre mois dans une place sans qu'il se produise ni tragédie ni maladie. Rien. Puis elle quittait cette place pour une autre et trois semaines plus tard, deux membres de la famille mourraient après avoir mangé du bacon à leur petit déjeuner. Comme ces décès avaient lieu dans des régions différentes d'Angleterre et à intervalles irréguliers, la police a mis un certain temps à retrouver sa trace. Elle changeait bien évidemment de nom à chaque fois. Et il existe tellement de femmes d'âge mûr, agréables, compétentes et sachant faire la cuisine, qu'il a été bien difficile d'épingler celle-là en particulier. Et pourquoi faisait-elle ça? Je crois que personne ne l'a jamais su. On a échafaudé de nombreuses théories, surtout les psychologues, bien entendu. C'était une femme très pieuse et il est possible que, sous l'empire d'une espèce de folie religieuse, elle se soit crue chargée de débarrasser le monde de certaines personnes envers lesquelles elle n'éprouvait aucune animosité personnelle. Et puis il y a eu Jeanne Gebron, cette Française qu'on a surnommée l'ange de miséricorde. Elle était si bouleversée quand les enfants de ses voisins tombaient malades qu'elle se précipitait pour les soigner. Elle restait clouée à leur chevet. Là aussi, il a fallu quelque temps avant qu'on ne découvre que les enfants dont elle s'occupait ne guérissaient jamais. Au contraire, ils mourraient tous. Et pourquoi? Il est vrai que lorsqu'elle était jeune, son propre enfant était mort. Elle en avait été accablée de douleur. C'était peut-être là le fondement de sa carrière criminelle. Si son enfant à elle était mort, alors les enfants des autres devaient mourir aussi. Ou encore, comme certains l'ont supposé, il est possible que son propre enfant ait été l'une de ses victimes. « J'en ai des frissons dans le dos, » dit Tommy. « J'ai choisi exprès les exemples les plus mélodramatiques, » reprit le médecin. « Mais cela peut être beaucoup plus simple. Rappelez-vous Armstrong. Quiconque l'offensait ou l'insultait, et même s'il ne s'agissait que d'une impression, ce quelqu'un était aussitôt invité à prendre un thé accompagné de petits sandwichs à l'arsenic. » Une espèce d'hypertrophie de l'amour-propre. Mais ses premiers crimes avaient été simplement dictés par l'intérêt. Une histoire d'héritage, avec la suppression de son épouse afin de pouvoir se remarier. Et puis, il y a eu Warriner, cette infirmière qui dirigeait un foyer de vieilles personnes. Celle-ci lui léguait tous leurs biens contre l'assurance d'une vieillesse confortable jusqu'à ce que survienne leur mort. Et la mort ne tardait jamais à survenir. Là aussi, c'était de la morphine qu'elle leur administrait. Une très brave femme, mais sans scrupules. Je crois qu'elle se considérait comme une bienfaitrice. À supposer que vous ayez raison à propos de ces décès, vous avez une idée de qui il pourrait s'agir? Non, il n'y a aucun indice d'aucune sorte. Si l'on part du point de vue que, selon toute vraisemblance, la meurtrière est une malade mentale, ces maladies-là sont souvent très difficiles à reconnaître dans certaines de leurs manifestations. Disons que c'est quelqu'un qui déteste les vieillards, qui a été blessée ou dont la vie a été gâchée, du moins le croit-elle, par une personne âgée. Ou alors une altruiste d'un nouveau genre, qui estime miséricordieux d'exterminer quiconque a dépassé la soixantaine. Dans ce cas, cela pourrait être n'importe qui. Une patiente, un membre du personnel, infirmière ou domestique. J'en ai parlé en long et en large avec Millicent Packard qui dirige la maison. C'est une femme très compétente et perspicace, qui a l'œil aussi bien sur ses pensionnaires que sur son personnel. Elle affirme qu'elle n'a ni soupçon ni indice, et je suis sûr qu'elle dit la vérité. Mais pourquoi vous adresser à moi? Que puis-je faire? Votre tante, Mademoiselle Fanshawe, a vécu là quelques années et c'était, bien qu'elle ait souvent prétendu le contraire, une femme particulièrement intelligente. Elle avait des façons bien à elle de s'amuser en se donnant des airs séniles, alors qu'elle avait, et comment, toute sa tête. Ce que j'aimerais, c'est que vous et votre femme également, vous essayiez de réfléchir, de vous rappeler si Mademoiselle Fanshawe a jamais dit ou laissé entendre quelque chose qui pourrait nous mettre sur la voie. Un incident qu'elle aurait remarqué, une confidence que quelqu'un lui aurait faite, un détail qu'elle-même aurait trouvé bizarre. Les vieilles dames sont très observatrices, et une personne aussi perspicace que Mademoiselle Fanshawe devait avoir une connaissance surprenante de ce qui se passait à la crête ensoleillée. Ces vieilles dames n'ont rien à faire, comprenez-vous ? Alors elles ont tout le temps de regarder autour d'elles et d'en tirer des conclusions. Des conclusions hâtives, parfois, qui peuvent à première vue sembler fantasmagoriques, mais qui, quelquefois, se révèlent parfaitement exactes. Tommy secoua la tête. « Je comprends ce que vous voulez dire, mais je ne me souviens de rien de ce genre. »« Votre femme est absente, je crois. Vous pensez qu'elle pourrait se rappeler quelque chose qui ne vous aurait pas frappé ?»« Je le lui demanderai, mais j'en doute. » Il hésita, puis se décida. « Écoutez, ma femme avait bien un sujet d'inquiétude à propos d'une de ces vieilles dames, une certaine Madame Lancaster. »« Madame Lancaster, oui ?» Ma femme s'est mise en tête qu'elle avait été soudainement enlevée par une de ses parentes. En fait, Madame Lancaster avait fait cadeau à ma tante d'un tableau que ma femme estimait devoir lui rendre. Elle a donc cherché à se mettre en rapport avec elle. Ma foi, c'est tout à son honneur. Seulement, elle n'est arrivée à rien. Elle a obtenu l'adresse de l'hôtel où elles étaient censées descendre, elle et sa parente, mais personne de ce nom n'y avait jamais réservé de chambre. Tiens, c'est assez bizarre. Oui, c'est ce que tu peines à penser aussi. Elle n'avait laissé aucune autre adresse à la crête ensoleillée. En fait, nous avons fait plusieurs tentatives pour entrer en contact avec Madame Lancaster ou, à défaut, avec Madame Johnson. C'est comme ça, je crois, que s'appelle la parente en question, mais sans succès. Toutes les factures étaient payées et tous les arrangements faits par un notaire avec lequel nous nous sommes mis en rapport, mais il ne nous a donné que l'adresse d'une banque. Et les banques ne fournissent aucun renseignement. Ajouta Tommy. C'est vrai, si le client leur en a donné l'ordre. Ma femme a écrit à Madame Lancaster au bon soin de la banque, ainsi qu'à Madame Johnson, mais elle n'a jamais reçu de réponse. Ce n'est pas très normal. Cela dit, les gens ne répondent pas toujours aux lettres. Et puis, elles sont peut-être parties pour l'étranger. Exactement, cela ne m'a pas inquiété. Mais ma femme, si. Elle est convaincue qu'il est arrivé quelque chose à Madame Lancaster. En fait, elle a dit qu'elle allait continuer à enquêter pendant mon absence. Je ne sais pas très bien ce qu'elle avait l'intention de faire, peut-être d'aller en personne à l'hôtel ou à la banque ou d'aller voir le notaire. En tout cas, elle voulait obtenir plus de renseignements. Le docteur Murray le regardait avec une légère expression d'ennui poli. Que pense-t-elle au juste ? Elle pense que Madame Lancaster court un danger et même qu'il lui est peut-être arrivé quelque chose. Le médecin haussa les sourcils. « Oh, vraiment, j'ai du mal à croire que... » « Cela peut vous paraître tout à fait idiot, » déclara Tommy, « mais voyez-vous, ma femme a téléphoné pour dire qu'elle serait de retour hier soir et... » Elle n'est pas rentrée. Avait-elle dit de manière certaine qu'elle avait bien l'intention de le faire ? « Oui, comme elle savait que je devais revenir de cette réunion d'affaires, elle a appelé notre employé à la maison pour lui dire qu'elle serait là pour le dîner. » Et c'est très inhabituel de sa part ? Demanda Murray, qui regardait maintenant Tommy avec un certain intérêt. Oui, répondit Tommy, c'est très inhabituel. Si Tuppence avait été retardée ou si elle avait changé d'idée, elle aurait retéléphoné ou envoyé un télégramme. Et vous êtes inquiet ? Oui, je suis inquiet, avoua Tommy. Vous avez averti la police ? Non. Qu'est-ce que la police pourrait bien faire ? Ce n'est pas comme si j'avais des raisons de croire qu'elle a des ennuis, ou qu'elle est en danger, ou je ne sais quoi. Parce que si elle avait eu un accident, si elle était à l'hôpital ou quoi que ce soit de ce genre, on me l'aurait aussitôt fait savoir, non ? Oui, sans doute. Si elle a des papiers d'identité sur elle. Elle a son permis de conduire. Probablement aussi des lettres et une poignée d'autres documents. Le docteur Murray fronça les sourcils. Tommy poursuivit précipitamment. Et maintenant vous vous amenez, vous arrivez avec toute cette histoire à la crête ensoleillée, de gens qui meurent alors qu'ils ne devraient pas mourir. Supposons que cette brave vieille ait eu vent de quelque chose, qu'elle ait soupçonné quelque chose, et qu'elle se soit mise à en parler. Il fallait la faire taire par tous les moyens. Alors on l'a embarquée en vitesse et emmenée quelque part où on ne pourrait pas retrouver sa trace. Je ne peux pas m'empêcher de penser que toutes ces histoires sont liées. C'est étrange, c'est effectivement très étrange. Qu'est-ce que vous comptez faire maintenant ?
Une petite enquête de mon côté, d'abord chez le notaire. Il est peut-être blanc comme neige, mais je tiens à le voir et à me forger ma propre opinion.